marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il est certain qu'il faut un regard historique pour comprendre le temps présent.
La poussée des armements.
À chaque moment, jour et nuit, des groupes de ces appareils tiennent l'air pour le cas où nos bases seraient attaquées par surprise. Vous pouvez voir quelques-uns des autres groupes.
Qui est-ce qui les contrôle ?
Nous. C'est ici le centre nerveux, la cellule de base. Toutes les machines que vous voyez reçoivent en permanence des informations de tous les points du monde.
Et d'au-dessus ? Pourriez-vous donner un grossissement plus fort, général ?
Ce sont les rampes de lancement de fusée vues de 500 km de haut.
C'est impressionnant. Nous aurons bientôt une plus grande précision. On pourra voir non seulement les installations, mais les hommes. Vous pourrez compter les cheveux de leur tête.
C'est ainsi peut-être que la semaine dernière, les Russes déployés en Syrie savaient tout des intentions des trois pays lanceurs de missiles et de la trajectoire de leurs engins dirigés vers des cibles industrielles à Damas. Ils les ont laissés aller leur chemin. Bilan provisoire, la confrontation directe a été évitée ou retardée. Autre leçon de ce moment difficile, la transmission et le contrôle de l'information comptent au même titre que la puissance de l'armement. Internet fait partie des champs de bataille. On dira que le renseignement était déjà une des branches ô combien romanesques de la guerre froide. Faut-il d'ailleurs continuer de comparer rituellement les instants électriques que nous vivons ces années-ci avec les longues décennies de la guerre froide? Certes, depuis le début du millénaire, les dépenses d'armement sont reparties à la hausse, avec même une tendance récente à l'accélération, mais les proportions des dépenses de défense ne sont plus les mêmes que dans les années 50. Les acteurs non plus, ils sont bien plus nombreux aujourd'hui. Les États-Unis pèsent pour un tiers des ventes d'armement dans le monde, gardent la suprématie technologique, mais les Chinois contestent leur leadership, ils vendent des armements jusqu'en Afrique ou en Amérique latine. C'est en Asie et à son flanc, au Moyen-Orient, qu'on trouve les pays qui gonflent le plus leur budget d'achat. Encore un phénomène inédit, les consommateurs se voient également producteurs. L'Inde achète de plus en plus, mais fait des calculs sur les transferts de technologies en même temps qu'elle dose soigneusement le poids respectif de ces pays sources, tant pour les Suédois, tant pour les Français, etc. Bref, la concurrence est partout et la situation fluide est difficilement prévisible. Ce qui est prévisible, en tout cas, c'est qu'une détente rapide avec une baisse significative des armements n'est pas concevable actuellement, alors qu'elle a pourtant pu se produire il y a une génération à la fin de la guerre froide. Il n'y a plus présentement que les ONG qui manient encore le vocabulaire du désarmement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Venu de l'Iris, abandonne tout espoir en écoutant, auditeur, cette émission. Vous êtes un homme qui calcule froidement. C'est pas facile d'ailleurs, j'imagine, de faire les compilations, d'y appliquer l'esprit critique nécessaire en la matière.
Effectivement. C'est très difficile de calculer les budgets militaires, les ventes d'armes, etc., etc. Et il y a souvent des batailles sur les chiffres.
On va commencer en parlant de l'époque de la guerre froide. On dit que c'est le niveau de conflictualité qui explique la hausse des dépenses d'armement. Il faut néanmoins un certain niveau de croissance pour les permettre.
Tout à fait. Il y a deux facteurs qui jouent. C'est le niveau de conflictualité. Et on a vu que durant la guerre froide, les dépenses militaires étaient bien supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. On était de l'ordre de 3-4% du PIB pour les Occidentaux, alors qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de 2%. Quand on a eu la période de l'après-guerre froide où la conflictualité était moins forte, on s'est aperçu que c'est la croissance économique qui allait porter l'augmentation des budgets de défense, notamment en Asie où la croissance économique était forte.
Alors revenons à l'époque des années 1950. Il y a quand même une accélération, années 50, 51, 52. Du côté des États-Unis, les États-Unis connaissent la guerre d'ailleurs.
Les États-Unis connaissent la guerre, ils vont connaître effectivement la guerre de Corée dès le début des années 50. Donc la période de paix, elle est en fait extrêmement brève après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais on dit que les systèmes d'armement dépendent un peu de la position géopolitique. Les États-Unis ont un armement de puissance maritime, au moins au début de la guerre froide, avant que les Soviétiques n'aient des alliés dans le tiers-monde révolutionnaire. les Soviétiques avaient une stratégie d'empire continental.
En géopolitique pure, les États-Unis, c'est l'île, et l'Union soviétique, c'est le continent. Et ça se traduit notamment, effectivement, dans les rapports de force, on voit très bien, des années 50 à 70, la puissance des États-Unis, elle est effectivement maritime, on le voit sur les missiles qui sont sur des sous-marins, alors que la puissance de l'Union soviétique, elle est terrestre, avec des missiles terrestres, des missiles sol-sol, plus que des missiles sur sous-marins.
Le président Trump aujourd'hui regrette qu'il n'y ait pas de tradition du défilé militaire aux États-Unis. Alors il va peut-être la créer à partir du mois de novembre. Nostalgie, les défilés, Place Rouge. Là, nous sommes le 1er mai 1966.
Les attachés militaires ne se posaient plus qu'une seule question en regardant cet énorme déploiement d'engins. L'URSS allait-elle montrer une arme nouvelle, Victor Vraiment ?
À en croire le speaker de Radio Moscou, il y avait effectivement du nouveau.
Des fusées de moyenne portée et intercontinentales à combustible solide et extrêmement mobiles. Plus mobile que les engins dont dispose n'importe quelle armée du monde. Ces fusées sont un moyen particulièrement sûr pour porter un coup écrasant à n'importe quel adversaire.
Les experts étrangers n'ont pas encore pu apprécier la valeur exacte de ces nouvelles fusées à carburant solide. De toute manière, ce serait la seule nouveauté présentée ce matin sur la Place Rouge. Pour le reste, on a vu défiler quelques 240 engins, dont cette énorme fusée orbitale d'une trentaine de mètres de long, qui a déjà été présentée au mois de novembre dernier pour l'anniversaire de la Révolution.
Alors je vois hausser le sourcil, la qualité technologique de la radio n'est pas encore en 66 celle d'aujourd'hui. Alors à propos de technologie, vous êtes capable d'expliquer là, les différentes caractéristiques des objets qu'on a vu défiler ou qui sont évoqués ?
Bah, à cette époque-là, on était en pleine course à l'armement, et notamment à l'armement nucléaire. Et les progrès, ils portaient à la fois sur la portée des missiles nucléaires. À ce moment-là, on avait déjà ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire que les capacités soviétiques étaient capables de détruire les États-Unis et vice-versa. Mais on était à ce moment-là dans une course pour avoir des missiles et des têtes nucléaires plus nombreuses sur les missiles, avec des trajectoires aléatoires. C'était à cette époque-là la percée qui existait au niveau technologique.
J'aime bien que vous parliez de percée, mais en fait c'est aussi une accumulation de matériel jusqu'à l'absurde.
Effectivement, puisqu'on est arrivé au début des années 70 à un nombre de têtes nucléaires de part et d'autre qui dépassait les 10 000. Il faut savoir que depuis, avec les traités de désarmement, on est tombé entre 1500 et 2000 têtes nucléaires. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Américains et Soviétiques se sont aperçus que cette course ne les conduisait nulle part et que les premiers traités de désarmement ont commencé à être signés.
Alors on va dire un mot de ces traités que vous datez, SALT 1, SALT 2.
SALT 1, ça date de 1972, et le deuxième, SALT 2, date de 1979.
Oui, mais en 1980, au début des années 80, le président Reagan arrive au pouvoir, et alors lui, c'est au départ un anticommuniste obstiné, et une inquiétude l'habite, les soviétiques peuvent prendre de l'avance, une inquiétude peut-être pas justifiée, et puis une prémonition l'habite aussi, leur système est vicié à la base, leur poids de leur complexe militaro-industriel est beaucoup trop lourd pour pouvoir être supporté longtemps par la société. Et alors il a, ou ses conseillers, une illumination de génie, on dit c'est turiféraire, on pourrait peut-être mettre fin au système de dissuasion de l'agression par la garantie de la riposte, et puis inventer un autre système. Alors on s'en souvient peut-être, c'est un système un peu de science-fiction qui était nommé la guerre des étoiles.
Nous n'allons pas rester dans cette situation de revolver nucléaire braqué l'un sur l'autre. Il y a une autre méthode. Puisque la science nous donne cette puissance de destruction, elle pourrait orienter son talent dans une autre direction, par exemple, rendre peut-être ses armes dépassées, inopérantes.
Donc, M. Reagan a proposé, avec cette guerre des étoiles, de substituer à la riposte nucléaire des moyens défensifs et non nucléaires. C'est là que le projet est séduisant. On évite l'engrenage nucléaire. On pourrait mettre au point de puissants faisceaux laser émis depuis le sol, mais réfléchis par des miroirs spatiaux qui dirigeraient ce rayon de la mort à 300 000 km/s vers la fusée adverse pour la détruire. On pourrait aussi émettre le laser directement depuis l'espace. Déjà, il est parfaitement efficace, tiré d'un bombardier contre un missile. Les projets, les possibilités ne manquent pas, depuis le satellite tueur crachant sa mitraille sur le satellite adverse jusqu'au canon à neutrons, en passant par la fusée venant percuter de plein fouet la fusée cible.
Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le projet de guerre des étoiles, Jean-Pierre Molny, n'a pas eu besoin de vraiment se concrétiser dans tous ces détails extraordinaires. Il suffit qu'une puissance qui a la suprématie donne le là, ça va mettre l'URSS dans un grand embarras. On a dit que Reagan avait un peu provoqué la fin du communisme, parce qu'il avait obligé les soviétiques à augmenter leurs dépenses militaire jusqu'au point d'aller dans le mur.
C'est partiellement exact, cette explication. C'est-à-dire qu'avec la guerre des étoiles, il y avait effectivement l'idée, encore une fois, d'avoir une percée stratégique et de rendre inutiles les forces nucléaires, puisqu'on aurait arrêté tous les missiles nucléaires de l'Union soviétique. Donc ça poussait effectivement, si les soviétiques voulaient suivre, à une course à l'armement. Mais il ne faut pas oublier non plus que dès cette époque-là, Gorbatchev est arrivé au pouvoir, et qu'en fait Gorbatchev, il veut changer l'URSS, il veut changer son régime. Donc c'est quand même plus Gorbatchev que la guerre des étoiles qui a mis fin à l'Union soviétique.
Il faut reconnaître à Reagan une certaine intelligence, parce que quand il a vu le visage ouvert de Gorbatchev, il n'en revenait pas, parce que lui était habitué à des dirigeants communistes qu'il imaginait frustres et bas du front. Et il y a eu une sorte de confiance mutuelle peut-être plus grande du côté de Reagan, qui disait dans ses mémoires, c'est presque un ami.
Ce qui s'est passé, il faut bien voir que Reagan et Gorbatchev, ce sont deux nouveaux présidents. Il ne faut pas oublier non plus que le début des années 80, c'est la mort de Brejnev, c'est l'arrivée, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là la paix froide, avec Andropov et Tchernenko, et un raidissement. Il y avait la crise des euromissiles en Europe, c'est-à-dire le déploiement de missiles soviétiques en Europe. Il y avait l'envahissement de l'Afghanistan à la fin des années 79. Et là, ce que va proposer Reagan avec la guerre des étoiles, c'est également un projet de paix où on serait arrivé en fait à une option zéro, où il n'y aurait plus d'armement nucléaire. Et ça, ce discours-là, effectivement, Gorbatchev l'a entendu, même si on n'est pas allé jusqu'au désarmement nucléaire complet.
Sommet de Reykjavik, sommet de Moscou, à la fin de la présidence Reagan. Reagan dit, tiens, cet endroit, la Place Rouge, où vous faites des défilés, moi je pourrais peut-être aller y faire une petite promenade. Et il est acclamé par les soviétiques, il est presque plus populaire en URSS qu'aux États-Unis. Vous avez une jolie formule, vous autres, les experts en armement. À ce moment-là, à partir de 85, il y a, pardonnez-nous, chers auditeurs, d'utiliser ce langage, une fenêtre de tir pour le désarmement.
Tout à fait. On parle souvent d'armement, on parle très peu de désarmement, notamment aujourd'hui. Et entre 85 et 95, vous avez 5 à 6 des traités principaux traités de désarmement qui ont été signés. Tous les missiles nucléaires à portée intermédiaire ont été supprimés. Et notamment, ils visaient l'Europe, ils étaient implantés en Europe. Vous avez des vrais traités de désarmement qui sont signés entre l'Union soviétique, puis la Russie et les États-Unis, alors qu'avant on avait des traités de maîtrise des armements. Je parle des armes nucléaires. Le traité sur les armes chimiques, il a été signé en 1993, celui dont on parle aujourd'hui avec la Syrie. Vous avez aujourd'hui un traité qui limite les armements conventionnels en Europe, le traité sur les forces conventionnelles en Europe. Il date de 1990. Vous avez un traité également d'interdiction des essais nucléaires qui date de 1995. Et malheureusement, les États-Unis ne le ratifieront pas. Et ce sera cette fin de période, on va dire, bénie de désarmement.
Tout de même, pendant cette période, vous dites maintenant qu'elle est bénie, je vois que vous changez de langage, donc on arrive à un système de détente, à une baisse de 30% dans les dépenses militaires, je parle des grandes puissances.
Oui, la baisse des dépenses militaires, effectivement, a été à peu près, c'est ça, de 30% entre le début des années 90 et la fin des années 90.
Alors, faut-il parler d'amitié? Gorbatchev se sentait moins ami de Reagan que Reagan de Gorbatchev, et puis tous les deux vont disparaître de la scène politique. Une nouvelle période va s'ouvrir qu'on va évoquer, non sans avoir écouté d'abord Vysotsky, le chanteur mi-dissident, mi-contestataire russe, qui n'a d'ailleurs pas connu cette période bénie, s'interroge ici sur l'amitié, si tu veux savoir si l'ami qui est en face est exactement celui qu'il prétend. Voici les précautions à prendre.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La fin de la guerre froide marqua le début du grand boom dans le commerce des armes. Le bazar était ouvert.
La poussée des armements, c'est le titre de notre émission, Jean-Pierre Molny. Donc, à cette époque que vous décrivez, celle du désarmement, de la part des grandes puissances, des textes sont signés, souvent ratifiés, pas toujours. Le bazar est ouvert. Alors, vous avez encore dans votre vocabulaire un mot, la fluidification.
En fait, on entre dans une sorte de période de mondialisation des ventes d'armes. Autrefois, ce qui se passait, c'est que vous aviez un camp occidental, un camp soviétique, et puis vous aviez les alliés de l'URSS, les alliés des États-Unis, et puis chacun vendait à ses alliés. Et vous aviez deux marchés qui étaient fermés. La France, d'ailleurs, avait une position très particulière liée au général de Gaulle, qui avait essayé de retrouver une certaine indépendance. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on vend beaucoup d'armes sous le slogan « Si vous voulez éviter d'être dans la confrontation Est-Ouest, achetez français ». Acheter français, c'était en fait pour les neutres et les non-alignés. Et ça, d'ailleurs, était un slogan qui a très bien fonctionné. Au début de la fin de la guerre froide, si je puis dire, là, il n'y a plus véritablement de camp. Donc, Chinois, Russes, Américains, Européens, on peut vendre à tout le monde. Et en même temps, la compétition est plus ouverte.
L'obscurité est très grande aussi dans un certain nombre de continents, en Afrique notamment. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché africain dans ces années de 90-2000?
En Afrique, à ce moment-là, vous retrouvez de toute façon les Français. Vous trouvez à peu près tous les fournisseurs d'armement. Maintenant, il faut bien voir que... On parlait tout à l'heure de capacité économique. Le marché africain, ça représente 1 à 2% des ventes d'armes dans le monde, pas plus.
Le seul pays qui est sur son drapeau la Kalachnikov comme emblème, c'est un pays africain, le Mozambique quand même.
Tout à fait, mais vous parlez de Kalachnikov.
Oui, il faut qu'on étudie toute la gamme,
effectivement,
tout est bon.
Oui, c'est malheureusement, et tout le continent souffre, et le continent africain d'ailleurs, et le continent qui milite aujourd'hui sur le traité sur le commerce des armes, justement pour mettre fin aux ventes d'armes légères et au trafic d'armes légères. Parce que c'est ça le drame, effectivement, du continent africain.
Et le sous-continent latino-américain?
Le sous-continent latino-américain, ça a été là aussi un continent assez ouvert en termes de, d'armement. Vous trouvez de l'armement français, vous trouvez de l'armement des États-Unis pour les pays qui sont proches des États-Unis, vous trouvez des Russes, des Européens. Et aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que les Chinois sont extrêmement présents sur le marché latino-américain comme sur le marché africain d'ailleurs.
Les Chinois contestent le leadership technologique des États-Unis, mais ils sont quand même loin en la matière et de la taille du marché américain. Un tiers des ventes d'armes et de la suprématie technologique.
C'est très difficile de mesurer exactement les ventes d'armes des Chinois. Tout ce qu'on peut voir, c'est que les capacités des Chinois, c'est resté extrêmement limité, on va dire jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et là, en revanche, on voit véritablement des performances qui sont nettement accrues. Ils n'en font plus uniquement que des copies. Ils ne font plus uniquement des copies de matériel russe. Ils développent leur propre matériel et ils mettent un accent énorme, notamment sur tout ce qui est technologie moderne, comme l'intelligence artificielle.
Et non loin de la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient. Voici un reportage France 2 complément d'enquête Zoé de Bussière sur Jean-Yves Le Drian, celui dont François Hollande dans son récent livre dit il était quand même plus efficace comme ministre de la Défense que comme ministre des Affaires étrangères.
C'est la 10e fois qu'il s'apprête à faire le voyage. Mais cette fois-ci, Jean-Yves Le Drian le sait, c'est la bonne, car dans quelques heures, il va signer un énorme contrat. L'Inde s'apprête à débourser 8 milliards d'euros pour acheter 36 Rafales à la France. 4 ans qu'on en entend parler. Le Drian trouve toujours le temps de faire le VRP de l'industrie française. Au salon du Bourget, fin octobre, c'est la foire à l'armement. Et le ministre y est attendu, comme le Messie. Au hasard des stands, nous abordons une délégation de militaires saoudiens en pleine séance de lèche-vitrine. Est-ce que vous envisagez de signer des contrats bientôt avec la France ?
Oui, avec MEDA. Il faut qu'on renouvelle les missiles de nos navires de guerre.
Le problème, c'est qu'officiellement, la France n'est pas censée vendre d'armement à l'Arabie Saoudite. Depuis mars 2015, le pays bombarde son voisin, le Yémen, en pleine guerre civile.
Et on a condamné fermement l'intervention récente à laquelle vous faites allusion. Ceci étant, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Qatar, sont partie prenante de la coalition contre Daesh.
L'avion de Le Drian, c'est un vrai avion renifleur, parce qu'il a repéré que c'était l'Inde et l'Arabie Saoudite qui étaient les pays qui acceptaient la plus forte hausse de leurs achats d'armes, aujourd'hui.
Bah, l'Inde et l'Arabie Saoudite, ils ont deux particularités. Ce sont des pays qui ont des capacités financière extrêmement importante. Ce sont des grands pays à ce niveau-là. Pardon. Et ils n'ont pas d'industrie d'armement. Donc ils achètent des armes. Et donc c'est les deux plus grands importateurs d'armes dans le monde. Donc effectivement, c'est un marché, notamment pour la France.
Mais ils doivent être bons, l'Inde, en matière d'intelligence artificielle demain et d'utilisation d'Internet aujourd'hui. Je fais référence au livre que vous avez publié, Internet sur les champs de bataille, Jean-Pierre Molny.
L'Inde, ils sont en train effectivement de progresser en termes d'industrie de défense. Ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années qu'ils essaient. Et quand vous leur vendez des armements, d'ailleurs, il faut leur transférer toujours la technologie, parce qu'ils veulent bâtir une industrie de défense pour avoir une autonomie stratégique. Ils veulent être indépendants. Et donc, en réalité, ils ne sont pas satisfaits de cette situation où ils doivent acheter des armes à l'étranger, où ils sont dépendants d'autres pays.
J'ai vous laissé reposer votre voix en vous permettant d'écouter le camarade Poutine. Vous me direz que je ne sais pas si Vladimir Poutine nous laisse en repos parce qu'il a lancé un plan d'augmentation des dépenses militaires qu'il a du mal peut-être cette année à continuer au rythme prévu. Mais l'avertissement qu'il donne, c'est intéressant.
Nous n'avons aucun plan pour attaquer qui que ce soit. La puissance militaire croissante de la Russie est une garantie de paix sur notre planète.
Et quant à ceux qui, au cours de ces 15 dernières années, ont tenté de chercher un avantage unilatéral contre la Russie, ont introduit des restrictions et des sanctions illégales du point de vue du droit international, visant à restreindre le développement de notre pays, je dirais ceci. Tout ce que vous avez essayé d'empêcher par une telle politique s'est déjà produit. Personne n'a réussi à freiner la Russie.
Alors, si nous osons prononcer le mot désarmement devant Poutine à cet instant, ni sanctions, ni restrictions, ni mesures chafouines de désarmement ne peuvent être entendues par la Russie. La Russie ne veut pas entendre ce vocabulaire-là, non plus d'ailleurs que le président américain aujourd'hui. Il n'y a plus que les ONG qui l'utilisent.
Non, on n'est pas dans une période de désarmement, effectivement. On a eu une toute petite période au début du mandat d'Obama, période du reset avec la Russie, où il y a d'ailleurs eu un nouveau traité de désarmement nucléaire qui a été signé en 2010, mais pour le reste, il n'y a rien. On est dans une situation où c'est la société civile, aujourd'hui, qui pousse le désarmement. Et je parlais tout à l'heure de la période 85-95, où on a des traités de désarmement qui sont des traités entre grandes puissances. Et depuis cette période-là, tous les traités qui ont été signés, parce qu'il y a quand même des traités de désarmement, ont été poussés par les ONG. C'est la convention pour interdire les mines antipersonnelles, c'est la convention pour interdire les mines à sous-munitions, et puis c'est le traité sur le commerce des armes, pour essayer quand même de réglementer les ventes d'armes.
C'est quand ce traité ? C'est 2013 ?
C'est 2013, tout à fait.
Et alors ce traité, il a été signé par un nombre assez significatif de pays, pas la Russie ni la Chine,
mais ni les États-Unis.
Il n'a pas été signé par les États-Unis. Si, Obama l'a signé.
Obama l'a signé.
Mais le Congrès ne l'a pas ratifié.
Mais il n'a pas été ratifié. Et maintenant, évidemment, avec le changement de président, il ne peut pas y avoir de ratification du traité sur le commerce des armes par les États-Unis.
Juste une question. Les industriels de l'armement, qui sont de plus en plus regroupés, ils ont dû faire face aux difficultés de l'époque des années 1990, à la baisse des dépenses militaires, les concentrations de capital ont eu lieu. Ces entreprises de l'armement, elles auraient intérêt à voir progresser des bornes, des limites ?
Les entreprises de défense, d'abord, de plus en plus, c'est des entreprises mixtes, hein, à activité civile et militaire. J'ai envie de dire, elles sont comme tout le monde, elles regardent quand même leur environnement et elles sont en train quand même de s'apercevoir que dans leur environnement, il y a une société civile, il y a une demande d'éthique, il y a une demande de légitimité. Et en fait, elles commencent de plus en plus à faire attention à cet environnement. Elles ont des problèmes, par exemple, d'accès à des financements parce qu'il y a de plus en plus de banques qui font des financements éthiques et qui refusent de financer les entreprises de défense. Donc, elles sont en fait soucieuses de leur environnement. Et la question n'est pas de savoir si elles veulent ou elles ne veulent pas de bornes. La question, c'est qu'elles sont obligées de s'adapter à cette situation.
Dites-moi, ces entreprises, c'est pas très facile non plus de pénétrer précisément la composition de leur capital. Ces entreprises sont souvent de plus en plus internationalisées. Vous parlez de mixité des activités, mais il y a aussi internationalisation des capitaux. Comment un pays fait quand il est très dépendant d'une entreprise pour vérifier que les informations ne se disséminent pas ?
Si vous prenez l'exemple de la France, on a quand même une législation sur le contrôle des investissements étrangers, et donc on ne peut pas laisser n'importe quel investissement entrer dans une entreprise de défense, parce que ce sera examiné à la fois par le ministère de l'Économie et des Finances et par le ministère des Armées. Non, les pays en général font très attention, en tout cas ceux qui ont une industrie d'armement, font très attention justement à la forme capitalistique de leurs entreprises, hein, et au contrôle de ces entreprises.
Et le contrôle des exportations d'armes se fait aussi via le Parlement ? Parce qu'on lit souvent que la politique de défense est très peu contrôlée par le Parlement, si on prend l'exemple de la France.
Le contrôle des exportations d'armement en France, c'est le pouvoir exécutif. Ce dont bénéficie le pouvoir législatif depuis 20 ans à peu près, c'est d'une transparence sur les ventes d'armes, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au Parlement sur les exportations d'armement qui est publié chaque année.
Alors vous publiez chaque année, dans l'année stratégique, l'essentiel de ce que nous pouvons savoir et compiler. Merci à vous, Jean-Pierre Molny, dans l'équipe de La Marche de l'Histoire, Martin Cellier, Franck Olivard, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, la réalisation Audrey Ripouille et Arnaud nos cahiers. À la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Oui, Jean, bonjour. Dans la tête au carré, dans un instant, on parlera de la santé des migrants avec mes invités, médecins généralistes et médecins psychiatres.
On vous retrouve dans quelques instants. Il est 14h, vous écoutez France Inter.